BW. Vue d'Allemagne.
Percussions et musique de fête dans Vue d'Allemagne. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il semble qu'on soit vraiment sorti de la période électorale. On a plein d'autres choses que de la politique à vous raconter dans l'actu allemande. Il faut sélectionner, trier, choisir à nouveau au milieu de plein d'autres infos. Et ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Alors oui, bon, d'accord, c'est un peu le principe de notre boulot. Mais je me suis dit que ça faisait du bien de vous le dire en début de ce magazine. Et du bien d'entendre un peu de joie. Bon, j'en conviens, ça peut prendre la tête un peu, cette musique, alors je vous propose quand même de couper ça et de démarrer pour de vrai. Guten Tag, bonjour, willkommen, je vous souhaite la bienvenue. Dans 5 minutes, à ne pas rater, restez avec nous, reportage à Paris, 60 ans après un massacre dans la capitale française, vous allez l'entendre. Mais d'abord donc, l'actu en Allemagne, et je vous disais qu'il y avait enfin autre chose que de la politique. Sauf qu'on parle un instant politique quand même. Je vous parlais de l'Ampelkoalition, possible pour un prochain gouvernement la semaine dernière. Une coalition feu tricolore en français. Rouge comme le SPD, orange jaune comme le FDP, verte comme les écologistes, les partis en des couleurs en Allemagne. Eh bien cette coalition semble de plus en plus probable. Sociaux-démocrates, écologistes et libéraux allemands ont entamé des négociations officiellement pour cela. Les trois partenaires ont même rendu public un document avec les grandes lignes de la politique qu'ils entendent mener ensemble ces quatre prochaines années. Un premier compromis à l'allemande dans lequel les partis font de premières concessions. On retrouve le salaire minimum à 12 euros de l'heure, comme le voulait le SPD. L'accélération drastique des énergies renouvelables, souhait des Verts. Le renoncement aux hausses d'impôts pour les plus riches ou la limitation de vitesse sur les autoroutes, demandé là par le FDP. Le candidat du SPD, Olaf Scholz, parti arrivé en tête lors des élections du 26 septembre dernier, devrait obtenir le poste de chancelier. Des points à confirmer lors des négociations pour le projet final que les partis espèrent boucler avant Noël.
DW.
Vue d'Allemagne, on s'intéresse cette fois à ces recherches menées par nos confrères des médias publics allemands sur le regroupement familial, avec des résultats assez effarants, vous allez le voir. Alors ce regroupement familial, c'est quoi d'abord ? Eh bien, c'est un droit auquel les bénéficiaires de l'asile qui vivent en Allemagne peuvent prétendre. Normalement, ils peuvent faire venir époux, épouses et enfants auprès d'eux. Sauf que dans les faits, souvent, de nombreuses demandes de regroupement sont rejetées par le ministère des Affaires étrangères. Selon les chiffres officiels, 20 000 demandes sont refusées chaque année pour 100 000 accordées. C'est ce qui est arrivé à Tesfaye Haile, un Érythréen, son nom a été changé, je le précise. Il habite en Allemagne depuis 2017, sa femme et ses quatre enfants ont essayé de le rejoindre. Ils ont fui d'abord par l'Éthiopie et c'est là qu'ils ont demandé ce regroupement familial à l'ambassade d'Allemagne sur place. 3 ans de procédure pour finalement se voir refuser ce regroupement, raconte le père de famille.
J'ai fait une dépression. Je ne peux pas décrire ce que c'était. C'était l'enfer. Je ne savais pas quand ma famille allait venir, si elle serait même autorisée à venir.
Et dans ces cas-là, beaucoup abandonnent, laissant tout tomber. D'autres tentent des actions en justice pour tenter d'obtenir ce regroupement familial tout de même. Et là se déroule alors, dans 95% des cas, racontent nos confrères allemands, une procédure étrange. Le ministère des Affaires étrangères accepte de délivrer des visas sans passer par la procédure judiciaire, mais il demande aux gens, pour ça, de retirer leur plainte et de payer les frais de procédure. C'est ce qui est arrivé pour Haile et sa famille. Ils ont obtenu les papiers, moyennant 3 400 euros de dépenses. Un système utilisé tellement souvent que les avocats lui ont donné un nom, qu'on pourrait traduire par « règlement de Berlin » en français. Système que dénoncent ses avocats, comme Christophe Thometen.
Avec le règlement de Berlin, le ministère des Affaires étrangères profite de la situation difficile des familles. Et cela peut certainement être appelé un chantage.
Un chantage qui met les réfugiés sous pression, tandis que le ministère des Affaires étrangères économise de l'argent et évite les défaites juridiques, disent les avocats. Interrogé, le ministère des Affaires étrangères répond qu'il manque, par exemple, souvent des documents et que c'est pour ça qu'il refuse. des certificats de mariage civil, par exemple. Sauf que dans de nombreux pays, les couples ne se marient qu'à l'église, disent les avocats, et qu'il n'y a donc pas de certificat de mariage civil. Ils soupçonnent les ambassades de faire du zèle pour limiter le regroupement familial. C'est ce que pense aussi Janine Wissler, coprésidente du parti de gauche Die Linke.
La question est bien sûr de savoir ce que cela dit du travail des ambassades sur le terrain. Comment s'y déroulent les contrôles? Et y a-t-il peut-être aussi une forme de directive politique? C'est ce qui est dit, garder le nombre le plus petit possible, autoriser le moins de regroupement familial possible.
Et le gouvernement, par la voix de son porte-parole, se défend. Ce n'est pas une politique volontaire. Souvent, les documents manquent, tout simplement. Il est inutile donc d'aller devant les tribunaux si les gens les présentent par la suite. Certains élus, notamment des Verts, estiment, eux, que le travail de départ de décision ne peut pas être fait correctement, qu'il se fait mal ou trop vite parce que les ambassades manquent de personnel pour cela. Le gouvernement actuel semble ne pas leur donner totalement tort. Il répond qu'il a mis en place des mesures pour augmenter le personnel dans les bureaux de délivrance des visas et qu'il continuera à le faire. Aucun détail, en revanche, sur le nombre et le calendrier de mise en place de ces mesures.
Vous écoutez la DW.
La DW est le magazine Vue d'Allemagne où on vous parlait la semaine dernière de ces procès des années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, procès contre des personnes impliquées dans les camps de concentration entre 1939 et 1945. On parlait de ce centenaire devant un tribunal. Eh bien, un autre procès de ce type s'est ouvert ce mardi, cette semaine, dans le land du Schleswig-Holstein, dans le nord du pays. Procès là d'une ex-secrétaire de camp de concentration, aujourd'hui âgée de 96 ans. Elle doit répondre de complicité et tentative de meurtre sur plus de 11 000 personnes. Ce procès aurait dû débuter fin septembre déjà, mais l'accusée avait pris la fuite, quittant sans prévenir sa maison de retraite pour ne pas se présenter au tribunal. La police l'avait finalement rattrapée. Elle assure, cette accusée, n'avoir travaillé que dans l'administration du camp et n'avoir rien su des crimes qui se passaient en dehors des bureaux à quelques mètres de là. Là encore, ce procès devrait s'étaler dans le temps jusqu'à l'année prochaine. Belzen was a gaz, chanson du groupe britannique Sex Pistols de 1977. La chanson évoque le camp de concentration de Bergen-Belsen au nord-ouest du pays où sont morts quelques 150 000 personnes. D'Allemagne. Deuxième partie, on prend désormais la direction de la France où le pays a commémoré dimanche dernier le 60e anniversaire de la manifestation du 17 octobre 1961. Ce jour-là, des centaines d'Algériens voulaient manifester à Paris pour demander la levée du couvre-feu qui les touchait et l'indépendance de leur pays d'origine. Manifestation réprimée dans le sang, cela fera des dizaines de morts. Un passé et des faits longtemps niés, minimisés par la France. Le week-end dernier, Emmanuel Macron, le président, a reconnu des crimes inexcusables pour la République. Un premier geste, mais pas suffisant pour les associations de la diaspora algérienne. Reportage très fort à Paris, signé Nadir Djennad.
Ils étaient plusieurs centaines d'Algériens à marcher en chantant à Paris le 17 octobre 2021 depuis le boulevard Bonne Nouvelle vers le pont Saint-Michel, comme l'ont fait il y a 60 ans leurs aînés. Des anonymes, militants associatifs et des témoins de cet événement tragique ont de nouveau demandé aux autorités françaises de reconnaître la tragédie du 17 octobre 1961 comme crime d'État. Depuis plus de 30 ans, Mehdi Lalaoui, président de l'association Au nom de la mémoire, se bat pour cette reconnaissance. Il attendait plus du président français, mais pour lui, le combat continue.
On n'a pas eu la justice, donc on va réclamer la justice. On n'a pas eu la complète vérité, donc on va réclamer la complète vérité. On va continuer à se battre pour l'ouverture des archives, pour la réparation. On va continuer à se battre pour ce qu'on n'a pas obtenu par la voix du président de la République.
Justice et réparation pour un drame longtemps occulté par les autorités françaises. Le 17 octobre 1961, alors que la guerre d'Algérie touche à sa fin, les indépendantistes du Front de Libération Nationale algérien appellent à une manifestation pacifique dans les rues de Paris pour dénoncer le couvre-feu imposé quelques jours plus tôt aux Algériens. Mohamed Ghafir, que l'on surnomme Moklichi, était cadre au sein de la Fédération de France du FLN en 1961. Il a participé à l'organisation de la manifestation.
On a mobilisé quand même nos militants et nos militantes, hommes, femmes, enfants, dans les grandes artères de Paris, Champs-Élysées et les grands boulevards. C'est une marche pacifique. La police est tuée, jetée à la Seine, et ils ont brûlé vifs les Algériens en Bonne-Boulogne. Ils ont même pendu les gens.
Ahmed Bouchichi avait 31 ans, le 17 octobre 1961. Immigré algérien vivant à Paris, il était venu manifester ce jour-là avec ses amis devant le cinéma Le Grand Rex, lieu de rendez-vous des Algériens à Paris. Il ne se doutait pas de ce qui allait se passer.
On a fait des fêtes, on chantait, mais après la police avec des cars, les CRS, les gardes mobiles, il y a tout, hein. Après ils ont dispersé. Ça fait peur, on était obligé de se sauver quoi. Et j'ai été même blessé. Par la police avec des balles réelles.
La répression policière, commandée par le préfet de police de Paris, Maurice Papon, aurait fait plusieurs centaines de victimes au total, selon les historiens. Dans son intervention du 16 octobre dernier, le président français Emmanuel Macron a nommé Maurice Papon comme le responsable du drame. Mais il n'est pas le seul, selon Fabrice Rissé-Pouty, historien, auteur du livre « Ici, on noya les Algériens » aux éditions du Passager clandestin.
Maurice Papon, il est préfet de police de la Seine, et comme préfet de police, il obéit à des consignes politiques. Et il obéit en particulier à celle du premier ministre de l'époque, qui s'appelle Michel Debré, qui est opposé à la négociation avec le FLN, que mène à ce moment-là De Gaulle, qui est très avancé à ce moment-là. Mais il est clair qu'il fait tout pour saboter le processus en cours, et c'est lui qui demande à Papon d'appliquer des mesures extrêmement dures, sévères. Et De Gaulle, quant à lui, il laisse faire parce qu'il ne peut pas se permettre de voir sa majorité politique exploser sur la question de l'indépendance algérienne.
Mais va reconnaître un Algérien, toi, d'un Portugais, d'un Espagnol et tous les autres.
Pour que ce drame ne soit pas oublié, les nombreuses associations de la diaspora algérienne de France organisent colloques, rassemblements, débats, comme c'est le cas actuellement à l'occasion du 60e anniversaire de la tragédie. Mohamed Kaki est le président de l'association Les Oranges, basée à Nanterre, en région parisienne. L'un des objectifs de l'association est d'écrire l'histoire de l'immigration algérienne, oubliée par l'histoire officielle. Mohamed Kaki a écrit une pièce de théâtre le 17 octobre 1961, je me souviens, dans laquelle il a puisé dans son histoire familiale pour raconter la répression qui s'est abattue sur les manifestants algériens à Paris il y a 60 ans. Il fait souvent des lectures de sa pièce aux plus jeunes, car selon lui, il faut transmettre cette histoire aux nouvelles générations.
Transmission à nos enfants, à nos petits-enfants, qui passe par effectivement l'espace public, donc l'investissement de l'espace public, mais aussi l'écriture, mais aussi le théâtre, la musique, tous les formes d'expression qui permettent la transmission. Et ça, c'est un enjeu extrêmement important. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier jamais, c'est que ce ne sont pas les Français, ce sont des dirigeants français qui, au nom du peuple français, sans lui demander son avis, ont fait des horreurs.
Après le président français Emmanuel Macron, samedi 16 octobre dernier, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a déposé une gerbe de fleurs sur le pont Saint-Michel à Paris, en rendant hommage aux victimes algériennes 60 ans après le drame. Il s'agit d'une première, jamais un préfet de police ne l'avait fait auparavant. Nadir Djennad à Paris, pour la Deutsche Welle.
Nadir Djennad, qu'on remercie beaucoup pour ce reportage. Merci aussi à nos confrères allemands de l'ARD pour leur travail sur le regroupement familial. Et merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, pas de nouveau Vue d'Allemagne, mais une rediffusion. Nouveauté dans 15 jours en revanche avec Anne Letouzé. Et d'ici là, eh bien, je vous dis, alles Gute, portez-vous bien. Bis bald, à très bientôt, tschüss.